Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La mise en garde de François Bayrou avant le vote de confiance à l'Assemblée. Les députés ont 13 jours pour choisir entre le chaos ou la responsabilité. C'est un Premier ministre en sursis qui s'est présenté aujourd'hui devant l'université d'été de la CFDT. Le reportage de Camille Magnard dans un instant. Ce vote de confiance a été approuvé par Emmanuel Macron au risque d'une crise politique majeure. À quoi joue le chef de l'État qui prétend défendre la stabilité institutionnelle? Élément de réponse avec Stéphane Robert dans ce journal. Alors que la France voit sa situation budgétaire se dégrader, l'Italie, elle, est sur la voie du redressement. Nous serons en direct de Rome avec notre correspondant Bruno Duvic. L'armée israélienne lance un raid à Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. À Gaza, le Programme alimentaire mondial dénonce la faiblesse de l'aide humanitaire autorisée à entrer dans le territoire assiégé. Je me battrai comme un chien, affirme François Bayrou dans des propos rapportés par le journal L'Express. Le Premier ministre qui a choisi hier de s'exposer à la sanction des députés en sollicitant leur confiance le 8 septembre prochain sur la dette de la France. Toute la gauche et le RN ont annoncé leur intention de lui refuser cette confiance et ensemble ils sont majoritaires à l'Assemblée. François Bayrou veut malgré tout croire qu'il peut prolonger son bail à Matignon. C'est l'esprit du discours qu'il a martelé cet après-midi devant l'université d'été de la CFDT à Boissy-la-Rivière en Essonne. On retrouve sur place Camille Magnard, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Camille, le Premier ministre a demandé aux oppositions de bien réfléchir avant de le renverser.
Oui, ici, dans ce château offert aux syndicats au siècle dernier par le pionnier de la démocratie chrétienne, Marc Sangnier, François Bayrou tente de convaincre que le Modem et la CFDT ont en commun, dit-il, cette conscience et cette responsabilité à laquelle il appelle les Français face au mur de la dette.
Je vois bien tous ceux qui, devant cette exigence de clarification, choisissent d'être purement et simplement les artisans du chaos. C'est le contraire de l'esprit de responsabilité que défend le courant démocratique réformiste qui soude les militants de la CFDT et qui est en partage avec les militants de la démocratie sociale.
Le Premier ministre déroule un peu comme si de rien n'était son projet de budget. Il insiste sur l'effort spécifique qu'il veut demander aux plus hauts revenus. Il flatte aussi le syndicat en proposant à nouveau de confier aux partenaires sociaux la pleine gestion des régimes d'assurance chômage et vieillesse. Mais ces promesses d'énièmes grandes négociations ne passent plus vraiment.
C'est l'ensemble de nos conditions de travail que nous pouvons et devons améliorer. Personne ne le sait mieux que les organisations syndicales. Je serai votre porte-parole, voyez. C'est pourquoi j'ai souhaité identifier les sujets sur lesquels une grande négociation sur le travail devait être ouverte.
Camille, ce discours volontariste de François Bayrou n'a pas convaincu la CFDT. Le syndicat réformiste ne croit plus vraiment aux promesses du Premier ministre.
On n'est pas dupe. Voilà en résumé la réponse de Marie-Lise Léon qui refuse le discours sur le chaos et les procès en irresponsabilité lancé par François Bayrou. Elle affirme que d'autres choix budgétaires sont possibles et que la CFDT n'ira pas négocier sur la suppression de 2 jours fériés. Elle pointe enfin l'attitude du gouvernement sur l'assurance chômage comme sur le conclave des retraites qui cadre tellement les débats, dit-elle, qu'il enlève tout réel pouvoir de gestion aux partenaires sociaux.
On a fait la démonstration de notre responsabilité, notre capacité à faire sur les régimes complémentaires. Nous laisser gérer, c'est bien, mais il faut qu'on puisse décider des règles. Et c'est exactement le problème qu'on a sur l'assurance chômage. On nous dit, vous gérez, mais quand les règles ne nous conviennent pas, on va décider à votre place. C'est pas comme ça que ça peut marcher, le paritarisme.
Marie-Lise Léon et la CFDT veulent donc reprendre vraiment la main sans trop s'embarrasser d'un gouvernement en sursis. Les organisations syndicales se réunissent ce vendredi matin pour discuter d'un calendrier de mobilisation commune dès ce mois de septembre.
Camille Magnard en direct de l'université d'été de la CFDT à Boissy-la-Rivière avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Alors, ce vote de confiance le 8 septembre prochain à l'Assemblée n'aurait pas été possible sans l'accord d'Emmanuel Macron. C'est le chef de l'État qui a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande de François Bayrou. Les deux hommes ont arrêté leur décision la semaine dernière à la résidence présidentielle du Fort de Brégançon dans le Var, au risque de plonger la France dans l'instabilité. si le Premier ministre est effectivement renversé. Et une nouvelle dissolution de l'Assemblée est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, a dit ce matin le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Difficile de comprendre la démarche d'Emmanuel Macron dans cette crise politique, lui qui se pose en garant de la stabilité institutionnelle.
Oui, si vous interrogez les responsables politiques dans l'opposition comme dans le camp présidentiel, si vous sondez les politologues, les constitutionnalistes, les observateurs de la vie publique de tous horizons, personne ne comprend ce qui a motivé le Premier ministre François Bayrou et surtout le président de la République à prendre cette décision. Il y a tout juste un an, avant de nommer Michel Barnier à Matignon, Emmanuel Macron expliquait vouloir prendre son temps car il voulait s'assurer de la capacité de la personne qu'il nommerait à s'installer dans la durée. Et ça, au nom du fait qu'il était, en tant que président de la République, le garant de la stabilité des institutions. Or, la décision qu'il vient de prendre, d'autoriser son Premier ministre à solliciter la confiance d'un Parlement où les oppositions sont majoritaires, est précisément de nature à générer de l'incertitude et de l'instabilité, tant sur le plan politique que sur le plan économique. La chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre prochain est à ce stade quasi certaine. Et elle peut déboucher sur deux scénarios possibles. Premièrement, le président nomme un nouveau Premier ministre qui s'appuiera sur le socle commun, qui n'aura pas d'autre choix que de reprendre les travaux préparatoires de son prédécesseur pour l'examen du budget et qui sera immanquablement censuré dans les semaines qui viennent. Ce scénario entérine le blocage du fonctionnement institutionnel et constitue donc une impasse. Les deux têtes de l'exécutif apparaîtront alors comme les responsables de cette impasse. Le deuxième scénario est une nouvelle dissolution. Comme la précédente, celle-ci générera de la crainte et de l'incertitude et on ne voit pas bien comment elle pourrait mieux se passer que la précédente pour le camp présidentiel. Le plus probable est qu'elle renforce les formations extrêmes. Dans ces conditions, le risque est qu'Emmanuel Macron apparaisse encore une fois comme l'artisan du chaos et que se pose de façon plus accrue encore que la dernière fois la question de son maintien à l'Élysée. Dans la tempête politique qui s'annonce, on voit bien les écueils qui se dressent face à l'exécutif et on ne voit pas bien, en revanche, ce qui pourrait lui permettre de les éviter.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. À l'origine de cette crise politique, il y a l'effort budgétaire de près de 44 milliards d'euros que François Bayrou demande aux Français. Le budget 2026 prévoit notamment 3000 suppressions de postes de fonctionnaires et le non-remplacement d'un tiers des départs à la retraite dans la fonction publique. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, c'est Nicolas.
À quelques jours de la rentrée scolaire, vendredi pour les enseignants, lundi pour les élèves, les syndicats de l'éducation nationale redoutent de nouvelles suppressions de postes.
Oui, d'autant qu'à la rentrée, avec la baisse démographique, moins 130 000 élèves, tout niveau confondu, ce sont déjà 471 postes de professeurs qui ont été supprimés dans le premier degré, ce qui représente plus de 2000 classes fermées. Et avec la volonté de François Bayrou de ne pas remplacer un fonctionnaire sur trois qui partira à la retraite dès l'année prochaine, ce sont moins 7000 postes d'enseignants qui devraient encore disparaître en 2026. Une décision que dénonce Aurélie Gagné, la nouvelle secrétaire générale de la FSU SNIPP.
Le focus est souvent mis sur les classes dédoublées, mais quand dans une école, le dédoublement des classes est fait, ou en tout cas l'allègement est fait sur la grande section CPCE1, il faut avoir un regard sur ce qui se passe en petite section et aussi au CM2. Et très souvent, dans ces écoles, REP ou hors REP, hein, nous avons des effectifs assez chargés sur notamment les CM1, CM2. Il n'est pas rare de voir des classes encore à 25, 26, 27.
Face à ce contexte d'austérité, de son côté, le SEUNSA vient de déposer une alerte sociale et sera reçue dès demain au ministère de l'Éducation. Elisabeth Alamoreno, la secrétaire générale du SEUNSA.
On ne peut pas en rester sur les annonces qui ont été faites mi-juillet par le Premier ministre avec des enveloppes qui ne peuvent pas diminuer, notamment au niveau des recrutements. On nous a annoncé il y a 3 ans tout un plan progressif de recrutement des AESH et on voit bien qu'il y a eu un rétropédalage et des recrutements qui vont diminuer alors qu'aujourd'hui, personne peut dire qu'on a des besoins qui ont diminué sur l'accueil des élèves en situation de handicap.
L'intersyndicale doit se retrouver le 3 septembre afin de discuter d'une journée d'action et de grève avant les vacances de la Toussaint.
Hakim Kasmi, merci. Revenons à présent sur la situation budgétaire dégradée de la France en la comparant avec celle de nos voisins italiens qui, elle, s'améliore. Il faut savoir que pour se financer sur les marchés à 10 ans, la France emprunte aujourd'hui quasiment au même taux que l'Italie, pourtant le pays le plus endetté de l'Union européenne après la Grèce. L'écart, le spread, comme le disent les économistes, était de 460 points au moment de l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. Il était cet après-midi de 10 petits points. Nous sommes avec Bruno Duvic, notre correspondant à Rome. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, comment expliquer ce rapprochement vu d'Italie ?
Le parti de Giorgia Meloni le présente comme une victoire. C'est d'abord le fruit d'une autre évolution spectaculaire, celle des finances publiques. En 2022, le déficit en Italie était de 8,6%. Cette année, il pourrait être de 3,3%. Alors comment Giorgia Meloni a-t-elle fait ? Elle a d'abord enterré deux mesures coûteuses de ses prédécesseurs, le revenu de citoyenneté et un bonus à la rénovation énergétique. Elle s'est assise sur des promesses faites par elle-même ou ses alliés, assouplir le système des retraites, il s'est durci, abolir les taxes sur le carburant, elles sont toujours là. Globalement, une gestion sérieuse. Elle a aussi grandement bénéficié d'un contexte forte inflation à son arrivée qui a garanti des rentrées fiscales. Et l'Italie est le pays le mieux servi par le plan européen post-Covid, 200 milliards d'euros. Enfin, deux autres éléments plaisent aux investisseurs. Les 500 000 personnes en plus sur le marché du travail depuis 2023, là aussi ce sont des rentrées fiscales, et surtout la stabilité politique depuis 3 ans en Italie.
Bruno, y a-t-il des limites à cette évolution positive ?
Ah, certainement, la dette italienne reste monumentale, 135% du PIB contre 113% en France. Si les agences financières ont légèrement relevé la note de Rome, on reste dans la catégorie B, avec le sentiment que le plus difficile reste à faire. Les leviers utilisés depuis 2022 ne peuvent plus l'être. Les grandes réformes qui peuvent avoir un impact sur les finances et la croissance atone restent à mener. La relance de la démographie italienne, la place des femmes et des jeunes sur le marché du travail, le resserrement des taux d'emprunt entre France et Italie reflètent autant les déboires de la France que les améliorations de la situation en Italie.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. On croyait la hache de guerre enterrée entre l'Union européenne et les États-Unis depuis la signature de l'accord commercial qui instaure 15% de droits de douane aux marchandises européennes outre-Atlantique. Eh bien voilà que Donald Trump menace désormais les pays qui ciblent ces entreprises technologiques de nouveaux droits de douane. La Commission européenne lui a sèchement répondu cet après-midi. Fabien Cazot nous appelle de Bruxelles.
La réglementation du numérique est un droit souverain. Réponse directe adressée par la Commission européenne à Donald Trump cet après-midi. Aux yeux du président américain, les enquêtes diligentées par Bruxelles sur les GAFAM sont des entraves aux intérêts commerciaux de Washington. Il a menacé hier les pays ou organisations qui régulent le secteur de la tech de nouveaux droits de douane et de restrictions à l'exportation. Sans être nommée, l'Union européenne a de quoi se sentir visée. C'est la région du monde dans laquelle le niveau de réglementation est le plus élevé. Meta et Apple en savent quelque chose, chacun de ces géants ayant déjà été la cible de lourdes amendes. Nos règles demeurent inchangées, martèle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en particulier les règlements sur les marchés et les services numériques qui suscitent l'ire de Donald Trump. Sans que l'accord commercial conclu cet été, ne portant que sur les échanges de marchandises et pas sur les services, ni échanger quoi que ce soit.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. L'armée israélienne poursuit ses opérations militaires en Cisjordanie occupée. Elle a mené à la mi-journée un raid d'ampleur en plein centre-ville de Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. 7 personnes ont été blessées par balles, dont un homme dans un état critique, et 151 autres blessées par des éclats de balles. L'armée israélienne opère régulièrement à Ramallah, mais très rarement en plein jour. Le reportage sur place d'Alice Moreno.
En milieu de journée, les rues de Ramallah sont bondées lorsque des véhicules de l'armée s'arrêtent sur la place principale.
L'attaque de l'armée a commencé à 11h du matin. C'était très violent, sauvage. Il y avait des tirs à balles réels ainsi que des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Nous avons fermé les fenêtres de l'immeuble où nous travaillons. Ça n'était pas une attaque classique.
Les tirs retentissent dans toute la ville pendant plus d'une heure, paralysant toute activité. Ce bijoutier a dû se barricader dans son commerce.
L'armée entre régulièrement au centre-ville, mais cela faisait des années qu'on n'avait pas vu une opération comme celle-là. On a dû fermer les portes de la boutique avec des gens à l'intérieur pour leur sauver la vie.
7 personnes sont blessées par balles, des dizaines d'autres asphyxiées par les gaz lacrymogènes. Habituellement, l'armée opère plutôt de nuit dans la ville, nous indique un employé de la municipalité.
C'est la première fois qu'ils viennent en plein jour. D'habitude, ils viennent aux premières heures du jour ou le soir. Maintenant, ils entrent, prêts à tuer qui ils veulent, chasser qui ils veulent, pour que le peuple palestinien ne soit jamais en paix.
L'armée indique de son côté avoir mené son opération dans des bureaux de change du centre-ville qu'elle suspecte de financement d'activités terroristes.
Alice Moreno à Ramallah en Cisjordanie. À Gaza, le Programme alimentaire mondial dénonce la faiblesse de l'aide humanitaire autorisée à entrer dans l'enclave palestinienne. Une goutte d'eau dans l'océan, selon un responsable du PAM, Karl Skau. L'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza vendredi dernier. Un mensonge éhonté, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En Ukraine, l'armée de Kiev reconnaît pour la première fois une percée russe dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est du pays. Moscou avait revendiqué des avancées dans le secteur dès le mois de juillet. Les Ukrainiens affirment avoir stoppé la progression des envahisseurs. Mais la Russie grignote du terrain sur tout le front militaire. Elle occupe aujourd'hui environ 20% du territoire ukrainien, alors que la perspective d'un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine s'éloigne chaque jour un peu plus. Après la mort en direct de Jean Pormanov, la plateforme de streaming Kik est désormais dans le viseur de la justice française. La ministre en charge du numérique, Clara Chappaz, va attaquer la plateforme australienne devant le tribunal judiciaire pour manquement. Elle l'a annoncé aujourd'hui à l'issue d'une réunion avec les deux régulateurs français, la CNIL et l'ARCOM. Le streamer Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé le 18 août dernier au cours d'un live, une retransmission en direct. Il était régulièrement violenté et humilié par deux autres streamers lors de ses diffusions. Pierre Roper, la plainte de Clara Chappaz s'ajoute à l'enquête ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris contre la plateforme Kik.
Ce matin, à Bercy, la ministre déléguée au numérique, Clara Chappaz, a annoncé sa volonté de faire de Kik son combat.
J'intenterai une action au tribunal judiciaire pour manquement face à la loi sur la confiance numérique, parce que je considère que Kik n'a pas fait tout ce qui était en son possible pour mettre fin à la diffusion de contenu qui était dangereux. Et donc, nous allons lancer cette action aujourd'hui.
Clara Chappaz a également déclaré qu'elle comptait lancer une mission d'inspection pour cerner les difficultés d'action contre les dérives des plateformes. Sur proposition de l'ARCOM, elle va aussi réactiver l'Observatoire de la haine en ligne.
L'Observatoire pour la haine en ligne va être réactivé avec une première réunion dès octobre pour pouvoir mettre de façon beaucoup plus régulière tous ces acteurs autour de la table et prendre des décisions très concrètes sur comment mieux partager les informations. Par exemple, les signaleurs de confiance nous indiquaient que parfois ils ont du mal à avoir un contact direct avec un certain nombre de plateformes.
Et aux déclarations de la ministre s'ajoute l'annonce par la procureure de Paris de l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de la plateforme de streaming Kik, en plus de celle déjà menée par le parquet de Nice pour éclaircir les circonstances du décès du streamer Raphaël Graven. Cette nouvelle enquête préliminaire du chef de fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites est ouverte pour déterminer si Kik a diffusé en connaissance de cause des vidéos d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Les enquêteurs chercheront également à déterminer si la plateforme australienne respecte la réglementation européenne sur les services numériques. Les responsables encourent une peine de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.
Explication signée Pierre Roper. C'est l'une des mesures emblématiques du garde des Sceaux Gérald Darmanin pour lutter contre le narcotrafic, l'incarcération des plus gros narcotrafiquants dans une prison de haute sécurité. 88 d'entre eux ont été transférés durant l'été à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Mais 30 de ces détenus ont déjà déposé un recours contre leurs conditions d'emprisonnement. Leurs avocats dénoncent une sorte de torture blanche, c'est-à-dire psychologique, mais aussi l'opacité dans le choix des détenus concernés. Maître Fabien Arakelian évoque le cas de l'un de ses clients incarcéré à Vendin-le-Vieil alors qu'il était en détention provisoire à Beauvais.
Non seulement vous êtes affecté dans ce type de quartier, vous êtes présumé innocent dans la procédure qui vous concerne, mais vous comprenez que lorsqu'on vous transfère vers ce type d'établissement, ça écorne vraiment la présomption d'innocence en plus, hein. On va pas se mentir.
Parce que
vous vous rendez compte, c'est-à-dire, où êtes-vous détenu, monsieur? Moi, je suis au quartier de lutte contre la criminalité organisée à Vendin-le-Vieil, c'est-à-dire que vous ne vous êtes même pas défendu sur le fond de votre dossier, que déjà, on considère que vous êtes quelqu'un de dangereux et qu'on vous transfère vers cet établissement. Donc c'est même presque une présomption de culpabilité, vous voyez. Tout ça est très opaque, pas du tout transparent. C'est ce qu'on appelle le fait du prince, c'est-à-dire c'est le garde des Sceaux qui a décidé, avec un certain nombre de ses collaborateurs, de venir dire, ben voilà, vous allez me mettre 100 noms sur un papier et on va considérer que ce sont les 100 plus gros narcotrafiquants en France. Alors, bien évidemment que c'est très vendeur pour l'opinion publique, mais juste si on faisait un peu de droit, ça serait pas mal quand même.
Maître Fabien Arakelian répondait à Anne Fauquemberg sur les 30 recours déposés par des détenus incarcérés à Vendin-le-Vieil. 11 ont été jugés recevables par la justice administrative, mais les décisions n'ont pas encore été rendues dans ces dossiers. On termine ce journal avec un mot du temps. Demain, perturbé et orageux du sud-ouest vers le nord-est. Une vaste zone allant de l'Auvergne au Jura sera en vigilance orange pour ces orages. Demain matin, les températures minimales iront de 14 à 23 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 20 et 33 degrés de la Manche à la basse vallée du Rhône. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Timothée Hubert.